L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Voilà 10 jours que le monde a basculé en 1965. Nous sommes dans le Hampshire, au cœur de l'Angleterre. La ville portuaire de Southampton, place forte de près de 200 000 habitants, est victime du calme de l'hiver. Dans quelques instants, dans un jardin au cœur d'un petit quartier résidentiel, un homme va mettre fin à ses jours, fatigué des affres de la vie et des soucis de son existence. Nous sommes le 10 janvier 1965, en fin de matinée. La montre bon marché accrochée au poignet gauche du mourant affiche 11h30. 11h30, l'heure âge de mon histoire. Au loin, l'un des clochers de la vieille ville sonne un nouveau quart d'heure de cette matinée maussade. Frédéric Fleet se balance lentement au bout d'une branche. Dans ses derniers songes, ressurgissent les ombres de son passé, celles d'un froid mortel, d'un iceberg, celles du Titanic. Quelques heures plus tôt, le vieil homme de 77 ans s'est réveillé en sursaut. La pendule sur la petite table de chevet affiche 5 heures du matin. Il est en sueur. Encore un cauchemar. Il en fait tout le temps. Son rêve est lié, bien entendu, à ce foutu iceberg. Droit, fier, brillant dans les dernières lueurs de la lune et chaque fois inévitable. Si lui, Frédéric Fleet, avait survécu en 1912, ce n'était jamais le cas de ses rêves. Il s'y faisait chaque fois écraser, ou pire encore, comme cela a été le cas cette nuit d'ailleurs, il a été victime de la température des eaux gelées qui provoquait sa mort. Il y a bien longtemps en effet, cet homme avait été la vigie d'un navire de croisière. Il l'avait vu dans les eaux glaciales de l'océan, ce monstrueux géant des glaces. Il l'avait vu trop tard cependant pour réagir et faire en sorte qu'il ne percute pas l'insubmersible navire traversant l'Atlantique pour la première fois. Le Titanic. On parle ici de 269 mètres de ferraille, de ponts supérieurs et inférieurs, de cheminées, de salles des machines. Des 269 mètres de cuisine, de salles de bal et de cale. Et une multitude de passagers, aux histoires uniques, aux moyens variés et aux espoirs bien différents. Voilà plus d'un demi-siècle que les visages qu'il a croisés durant ses semaines de navigation ne cessent de lui revenir en songe. Les vagues, l'une après l'autre, percutent les mâts de son âme, s'engouffrent dans les voiles de ses rêves et attisent sa culpabilité. Péniblement, enfilant une miteuse paire de pantoufles en sortant de son lit, Frédéric Fleet va dans la cuisine se servir un café. Serré, noir, sans sucre. Le même depuis 65 ans. Sa vie, elle, qui a connu bien des tempêtes et le poids de l'écume aujourd'hui, est devenue bien trop lourde à porter. Il est trop tard. Plus rien ne viendra combler le vide occasionné par la perte de sa femme et le poids de la vieillesse qui s'installe chaque jour un peu plus. Une tannée. Le coup de grâce lui a été donné il y a quelques mois. Alors qu'il se sert une deuxième tasse de café, loin d'être extraordinaire, il repense à cette discussion qu'il a eue avec son beau-frère la fin de l'automne. Le sachant sans le sou, ce dernier voulait le foutre dehors, l'air de rien. Maintenant que sa sœur est morte, pourquoi ce beau-frère qui ne l'aime pas devrait-il tenir son engagement ? Il lui a laissé 6 mois pour plier bagages et trouver une autre maison. Mais se reloger dans le Hampshire quand on n'a pas le sou, c'est mission impossible. Alors devant l'impossibilité d'envisager l'avenir avec dignité, Frédéric a fait son choix. Sa matinée se déroule exactement comme toutes les autres. Après le café, Frédéric Fleet prend sa douche. Il enfile une chemise en soie blanche et une cravate fleurie bleue et rouge. un gilet en laine boutonné couleur marine, vient compléter l'ensemble et cacher ses bretelles. Il repasse par la salle de bain pour peigner une dernière fois ses cheveux aussi blancs que la neige qui est tombée au dehors il y a quelques jours. Ensuite, Frédéric s'installe à la table de la cuisine. Il est seul. Son beau-frère est parti le temps qu'il vide ses affaires. Il est tout seul dans cette grande maison pavillonnaire et il ne cesse de réfléchir. Pas que sa décision ne soit pas arrêtée, elle l'est depuis longtemps. Mais il ne s'est pas encore décidé sur le timing. Comme à son habitude, Frédéric se met à lire le Times et après quelques pages, finit par somnoler. Le voilà qui replonge dans ses pensées sur le pont supérieur du Titanic. Il est avec le capitaine dont la barbe blanche et lisse conforte toute son autorité, son expérience. Frédéric Fleet se voit hurler à 23h40 de toutes ses forces afin d'avertir les officiers de l'imminence du danger. Et puis, plus rien, le trou noir. Victime d'un syndrome de stress post-traumatique déclenché des mois après, son esprit, embué, malade, a fait le choix de faire une croix sur le quart d'heure qui a suivi le choc entre le monstre de fer et celui de glace. Fleet a totalement oublié ce moment décisif. Il se voit hurler, tenter de prévenir, et puis c'est le capitaine du navire qui le ramène à la réalité. Mais bien après que la catastrophe soit déjà en marche. Et ça, ce trou rempli de vide, ça le torture depuis bien trop longtemps. Seul, depuis le départ de sa femme dans l'au-delà, seul depuis l'ultime trahison familiale, le voilà sur une pente glissante dont il veut contrôler la chute. Une fois sorti d'une énième somnolence, Fleet se rend dans la cave pour y prendre une corde qu'il a achetée la semaine précédente. Robuste, tressée à la main, elle rippe dans ses vieilles mains calleuses et maladroites. Il quitte ses pantoufles pour enfiler une paire de chaussures décentes. Il accède au jardin par la baie vitrée du salon. Là, devant ses yeux, un pommier en pleine force de l'âge étale ses branches dénudées par l'hiver et ses bras tortueux semblent l'appeler. Cet arbre a été planté en 1912. Tout un symbole. C'est l'année du naufrage. Toujours en toile de fond, la catastrophe de sa vie et celle de beaucoup d'autres. Quelque part, c'est comme si une malédiction s'était abattue sur Frédéric Fleet depuis ce soir d'avril où le seul bateau au monde, réputé pour être insubmersible, a sombré au contact des éléments. Il ne sait dire pourquoi et d'où c'est venu. Mère Nature a-t-elle voulu punir les hommes pour leur arrogance, sans limite ni mesure sur ce projet? Ou alors, les centaines d'esprits pris au piège dans ces eaux glacées l'ont-ils suivi, lui et tous les survivants? Quoi qu'il en soit, Frédéric Fleet ne peut le supporter plus longtemps. Alors que son destin lui promettait un brillant avenir à bord du mastodonte Titanic, sa misérable carrière ensuite n'aura été que déconvenue, le conduisant à devoir vendre des journaux dans les rues de Southampton. Pour lui, qui était un fils de la mer, la pilule avait été rude à avaler. Au fond, Fleet a le sentiment d'avoir vécu la vie d'un autre. Comme il le peut, avec un escabeau qui tient lieu d'assistant bourreau, Fleet enchaîne les rôles. Avocat, juge, condamné. Et la sentence est irrévocable. La mort par pendaison. Et par là même, la fin de sa punition infligée pour sa négligence en 1912. Le froid glacial de janvier qui passe entre ses mains lui rappelle celui des eaux de l'Atlantique, alors qu'à l'horizon, le Titanic était en train de sombrer, happé par Poséidon et ses soldats. L'histoire de sa vie se termine au bout de cette corde. 34 secondes. C'est le temps que l'ancienne vigie mettra à mourir. Exactement le même temps qui s'écoula entre sa vision de l'iceberg et l'impact. Le poids des symboles. Notre histoire commence 53 ans plus tôt. Nous sommes le 12 avril 1912. Frédéric Fleet est bien différent de celui que nous venons de laisser dans ce jardin anglais du Hampshire. Le jeune homme de 24 ans, svelte, particulièrement élégant dans son uniforme de vigie du nouveau navire à la mode, est très fier d'être de ce premier voyage vers les États-Unis. En effet, les semaines précédant le départ, il marchait dans la rue tête haute, impatient comme un gosse, prêt à déballer ses cadeaux un matin de Noël. Tout va bien pour lui. Le jeune vigie est fiancé à la femme la plus magnifique qui lui a été donnée de rencontrer. Ce nouveau job est bien payé et il pourra voir du pays. Frédéric va découvrir New York et la Statue de la Liberté pour la première fois. Il est ravi, comme vous pouvez l'imaginer. Quand il n'est pas en service, au lieu d'aller dormir dans sa cabine, Frédéric préfère passer ses heures de pause sur le pont principal. Il aime voir fondre les vagues de l'océan, sentir sous ses pieds la puissance du Titanic, véritable montagne métallique au moteur surpuissant. Tout pour lui est un bonheur qu'il ne peut même pas décrire. Ses boucles brunes bercées par le vent sont enduites de sel des profondeurs marines. Ses yeux, eux, fuient en direction des étoiles, cherchent les planètes, alors que ses pieds semblent presque danser sur le parquet du pont principal. Quel spectacle magnifique de voir cet homme qui découvre encore les joies d'un bonheur simple et dont la trajectoire professionnelle s'ouvre de la plus belle des manières. Ce poste de vigie n'est pas le plus simple. Ici, on les appelle les veilleurs. Depuis le départ de Southampton 2 jours plus tôt, ce sont eux le regard et les oreilles du chef de bord et de ses équipes commandantes. 2 escales, une à Cherbourg, une à Queenstown, ont permis de roder les effectifs. Ils sont 6, les veilleurs, et travaillent par binôme. Le sien est un de ses amis, Reginald, un homme de confiance. Les durées de service des veilleurs sont les plus prenantes de tout l'équipage. 2 heures de travail, 4 heures de repos, et ainsi de suite, 24 heures sur 24. Autant vous dire que dès le 12 avril au soir, les cernes de Frédéric sont bien visibles et accompagnées d'une bonne sinusite. Oui, car leur lieu de travail avec ça est particulièrement exposé au vent. C'est ce qu'on appelle le nez de pie, petit perchoir à plusieurs mètres de haut tout près de la plateforme de navigation. Les rois du monde, en quelque sorte. Leur rôle, lui, est crucial. Notre héros du jour en a pleinement conscience. Ils ont la charge de décoder les signes de la présence d'icebergs ou d'obstacles en tout genre grâce notamment aux vaguelettes qui se forment autour du navire et de signaler la présence de difficultés potentielles sans attendre au commandement. Cependant, les veilleurs se sont plaints dès les premiers roulements d'un problème particulièrement cocasse. Aucune paire de jumelles dans le nid de pie. Comment est-ce possible ? Un bâtiment comme celui-ci n'a-t-il pas été en mesure d'être équipé convenablement ? Ce que tout le monde ignore alors, c'est qu'un officier muté au dernier moment sur l'Olympique, le jumeau du Titanic, est parti sans dire à quel endroit il a rangé ses fameux instruments. Absolument hallucinant. Mais cette anecdote, vous allez le voir, pourrait à elle seule illustrer la chute du Titan. La roue du destin, elle, continue de tourner. Nous sommes à 48 heures du cataclysme. Le Titanic et ses 2 jumeaux, l'Olympique et le Britannique, sont les bateaux de tous les superlatifs. Armada transatlantique, les 3 navires vont servir à relier l'Europe aux États-Unis en un temps record. Le Titanic est le premier à tenter l'aventure en fendant les vagues et le courant le 10 avril 1912 en direction des côtes américaines. Imaginez, un paquebot de 269 mètres de long qui consomme 600 tonnes de charbon chaque jour. Près de 180 marins étaient chargés de l'alimenter. Une véritable petite armée des profondeurs. Durant la traversée, des équipes de journalistes décident de publier une gazette qui sera distribuée dans les cabines tous les matins. À l'instar du Daily Mail ou du Times, chaque voyageur peut y lire les dernières nouvelles du navire. The Ocean Times est une invention tout à fait inédite à l'époque. 3 catégories de tickets ont été mis en vente. ceux de première classe, coûtent par passager un peu plus de 90 000 de nos euros actuels. Une vraie folie. Les déclarations de cette classe plus que luxueuse ont été inspirées par les décors du Ritz de Londres. Juste histoire de ne pas dépayser les aristocrates de la capitale. 20 000 bouteilles de bière, 8 000 cigares, 1 500 bouteilles de vin uniquement mis à la disposition de la première classe. C'est dans ces quartiers que figure le fameux grand escalier, certainement l'élément de décoration le plus célèbre du géant. Et quel escalier ? Uniquement réalisé en boiserie de chêne, taillé, ornementé, il permet au mieux loti d'accéder en direct à 7 des 10 ponts du navire. Les services à table sont composés de 10 ou 11 plats. Cet étalage de luxe ne se retrouve bien entendu pas dans la deuxième et troisième classe où les conditions de voyage sont bien moins extraordinaires. Mais il faut dire que la barre en première est mise très haut. Ce sens de la démesure se retrouve dans la structure même du navire. L'ancre principale du bâtiment devra être tirée par 20 chevaux de trait. Oui, 20 pour être installée. 885 membres d'équipage, 2200 voyageurs, 13 couples célébrant leur lune de miel et une dizaine de chiens. Voilà une véritable petite ville sur les flots, le tout sous le commandement du capitaine Smith et de sa célèbre barbe blanche. Le navire, de tous les superlatifs, a cependant pâti de la trop grande assurance de ses constructeurs, notamment au travers du nombre de canaux disponibles pour la sécurité des passagers. En effet, les canaux fixes permettent de sauver seulement 962 personnes. Disons tout de même que 4 canaux pliables ont été ajoutés par la compagnie, portant les places disponibles à 1178. Moins de la moitié donc, quand on prend en compte les membres de l'équipage. Il faut dire qu'il a été qualifié de presque insubmersible par ses bâtisseurs, qui sont d'ailleurs du voyage. Alors, excès d'arrogance ? Nous verrons cela un peu plus tard. La nuit du 12 avril, en tous les cas, est belle comme toute la journée du 13 avril. Pas grand-chose à signaler en réalité. La veille de l'accident est marquée par l'annulation d'un exercice de sauvetage prévu autour des canaux. Ironie de l'histoire, peut-être. Aucun signe de glace n'est relevé avant le petit matin du 14 avril. Le Titanic a déjà parcouru près de 2700 km. Oh, il n'est pas spécialement rapide. Une légende tenace voudrait que la compagnie cherchât à battre un record de vitesse pour son arrivée à New York. Il n'en est rien. Tout le monde, ingénieurs et dirigeants, sait bien que ce géant des mers n'a pas été construit pour être un navire de course. Le confort avant toute chose. C'est donc le 14 avril, un peu avant 9 heures, que le capitaine Smith est averti par son équipage qu'un autre navire de la zone rapporte la présence de glace et d'iceberg sur son itinéraire. En début d'après-midi, 3 autres bâtiments qui traversent la zone les signalent. De gros avertissements en somme. Mais Smith, pourtant loué depuis la catastrophe pour son héroïsme, hausse le sourcil gauche et répond avec dédain qu'il sait ce qu'il fait. Il reçoit pourtant un 5e message dans ce sens au début de la soirée, mais même réponse. Ses équipes sont moins certaines que lui de devoir continuer dans cette direction, tout au contraire. Prendre des risques inconsidérés pour gagner une journée ou deux, à quoi bon après tout ? Mais le big boss est clair, on maintient le cap. Aux veilleurs sans jumelles, je vous le rappelle, d'être vigilants. Un 6e message est transmis aux veilleurs à 19h30. De derniers avertissements d'un autre navire marchand en 21h40 ne seront pas transmis à l'équipage. Nous sommes à 2h du choc fatal. Notre héros, le jeune Frédéric, prend son service peu après 22h avec son coéquipier. 30 minutes plus tard, la température de l'eau avoisine les 0 degrés. La température de l'air, elle, est déjà à ce niveau depuis plus d'une demi-heure. 22h55. Sur le canal radio qui relie les navires et les autorités portuaires, un navire pris dans les glaces 20 000 au nord de la position du Titanic décrit une situation alarmante. L'opérateur du géant qui intercepte le message est alors en communication avec les autorités de Caprès à proximité. Sa réponse aux avertissements qui lui sont prodigués est lapidaire et reflète bien l'état d'esprit teinté d'arrogance et de suffisance de tout l'équipage. « Dégagez, taisez-vous ! Mais enfin, taisez-vous ! Je suis en communication avec Caprès !» Dans moins d'une heure, ce sera le choc. Et dans son nid de pire, Frédéric et son collègue grelottent de froid, les yeux rivés sur l'eau. La lune, elle, n'a pas pointé le bout de son nez ce soir, et elle ne sera pas leur complice. Pas de courant non plus, pas même des vaguelettes. Frédéric rumine, à tous les coups, ce quart-là ne va pas être facile. Vivement qu'il puisse aller dormir.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, notre heure H vit les dernières heures d'un monument maritime, le Titanic. Alors que ce géant des mers vogue en direction des États-Unis et de la mégalopole de New York depuis 4 jours, de nombreux avertissements émanent de différents navires dans la même zone. Ils font état de la présence de glace et d'iceberg. Mais le capitaine du Titanic n'y prête guère attention. Il croit en ses capacités et en celles de son navire. Il aurait été inspiré d'être plus patient. En effet, dans le froid et dans le calme marin, un géant de glace se place sur la route du Titanic. Le choc, inévitable, va entraîner une catastrophe. « 14 avril 1912, 23h40. Frédéric à son poste se gèle. Sans jumelles, son collègue et lui plissent les yeux autant que possible afin d'anticiper les dangers qui s'annonceraient sur le chemin du géant des mers. Ils ne sont pas au courant des avertissements reçus à la radio. La ligne téléphonique du nid de pire n'a pas sonné. Et alors que les deux hommes discutent de leur prochaine pause et de cette sieste qu'ils attendent avec impatience, Frédéric, les yeux rivés sur les eaux, découvre l'impensable. Devant lui, droit devant la coque du navire, un iceberg dépassant de la surface de l'eau de plus de 30 mètres se détache devant eux. Il est à moins de 500 mètres. Le navire avance à une vitesse proche des 45 km par heure. Il faut agir. Vite, ou ce sera la catastrophe. Dans leur petit promontoire, ils ont une cloche et un téléphone. Ils sonnent la cloche 3 fois, décrochent le combiné et appellent la salle des commandes. Son comparse, tétanisé, a déjà compris. L'opérateur en bout de ligne se contente d'un flegmatique « merci » et raccroche la ligne. La chaîne de transmission des ordres est en marche. Laissons Frédéric pour un moment, si vous le voulez bien. Le capitaine Smith n'est pas à la barre à ce moment-là. C'est son premier officier. L'homme appelle la salle des machines et là, les avis divergent sur les ordres transmis. Le haut commandement a, semble-t-il, tronqué la vérité. Au lieu du « arrière-toute » qui aurait dû être lancé, les machinistes ne semblent avoir reçu qu'un « stop » et coupent donc tout approvisionnement des moteurs. 37 secondes plus tard, alors que le navire vire de bord, il heurte par tribord le monstre de glace. Fin de l'histoire. Le choc est perçu par le capitaine Smith qui, sortant de sa cabine, remonte 4 à 4 pour comprendre ce qu'il s'est passé. Une collision. Ses premières mesures sont des plus lapidaires. Vérifier que la coque n'est pas endommagée. La plupart des passagers n'a même pas entendu la collision. Frédéric, qui pensait que le mât sur lequel il se trouvait allait tomber, est surpris même de le voir à peine bouger au contact. Le premier officier, qui part à la recherche d'une potentielle fracture de la coque, remonte en rassurant le capitaine. Il n'en a pas trouvé. Mais le vieux loup de mer préfère vérifier 2 fois. Il sent que le navire bouge. Et il a raison. À 23h50, l'avant s'est déjà enfoncé de 4 mètres dans l'océan. Smith envoie alors le charpentier en chef réaliser une inspection plus minutieuse et ce dernier découvre en effet une voie d'eau. Sans attendre, le capitaine va chercher l'architecte du navire et tous deux descendent au cœur de la zone sinistrée sans pouvoir y accéder. La salle de triage du courrier est déjà inondée. Cela ne peut vouloir dire qu'une chose. 5 compartiments du navire sont déjà sous l'eau, au moins partiellement. C'est un de trop pour qu'il puisse continuer de flotter. Le Titanic est déjà condamné. Pris de sueur froide, les deux hommes se tiennent par l'épaule et d'une voix blanche, le capitaine demande combien de temps ils peuvent tenir. 2 heures, tout au plus, annonce l'architecte. Et c'est tout leur univers, fait de balles et de caviar en première classe, qui s'écroule tout d'un coup. Fin de tous les espoirs. Reste maintenant à prévenir les passagers et à trouver de l'aide. Le problème des canaux, personne ne l'a encore en tête. À partir de 10:30, dans les airs et sur les ondes, sont envoyés à intervalles réguliers des SOS d'abord. Des fusées de détresse ensuite. Elles fendent l'air, éclairent de leur lueur rouge les visages maintenant inquiets et apeurés. Puis, elles meurent comme elles ont vécu, avec rapidité. Mais personne ne vient. Les dernières fusées seront envoyées à 1h40 du matin. Les derniers SOS radio à 2h17. L'Olympique, le navire jumeau du Titanic, est à plus de 900 km au moment de l'envoi des messages. Impossible d'arriver. Les autres présents autour sont généralement à plus de 200 km. Seul un bâtiment, le Carpathia, se trouve à une petite centaine de kilomètres. Alléluia, vous me direz. Oui, mais non, ce navire est lent. Il est très lent même. Et même s'il bat son record de vitesse cette nuit-là, avec une pointe enregistrée à 18 nœuds, soit un peu plus de 30 km par heure, les glaces et son manque de puissance condamnent d'avance ceux qui ont besoin d'être secourus. L'arrivée des secours est tardive, trop tardive. À bord du vaisseau qui coule, le capitaine décide de réunir l'équipage. Il est 5:00. Dans 25 minutes, l'eau se déversera sur le grand escalier via le pont E. Le temps presse. Pour l'instant, la plupart des passagers de la première classe n'ont pas été informés de la situation. Quelques rares exceptions se rendent compte du problème par eux-mêmes. Les classes plus populaires, elles, sont déjà en état d'urgence. L'eau commence à les envahir. L'organisation du sauvetage est répartie entre les 2 premiers officiers du navire. Un qui a en charge les canaux situés à tribord, l'autre ceux de bâbord. La course contre la montre est enclenchée. Comme il est nécessaire que l'électricité à bord soit maintenue le plus longtemps possible, il faut donc purger les vapeurs d'eau via les cheminées, ce qui produit un bruit assourdissant et met tout le monde en alerte. Les opérateurs radio et les officiers en charge de l'organisation des canaux ne s'entendent plus. Ils parlent par signes. À 10:40, le bruit s'estompe. Depuis un quart d'heure, le capitaine a ordonné qu'on fasse monter à bord des canaux les femmes et les enfants. Dans le même temps, il fait jouer l'orchestre sur le pont supérieur du navire afin d'éviter tout mouvement de panique. Mais le résultat obtenu est tout autre. La plupart des passagers refusent de croire au naufrage imminent et ne veulent pas embarquer. On ne compte que 20 embarcations disponibles qui offrent donc la moitié des places. C'est là que l'inconcevable se produit. Le capitaine et ses officiers commencent à détacher les canaux et les faire descendre à la mer alors qu'ils ne sont remplis qu'au tiers de leur capacité seulement. Le canot numéro 7 est le premier à partir avec 28 passagers embarqués sur les 65 places offertes. C'est tout bonnement hallucinant. 1h15 du matin, les derniers passagers incrédules se décident à partir alors que l'eau atteint maintenant la proue du navire et noie les chaussures et le bas des pantalons. L'orchestre joue toujours. Les 3e classes jusqu'alors bloqué, arrive sur le pont. C'est la cohue qui s'installe. Les hommes sauvés sont issus de la première et quelquefois de la deuxième classe. Les cabines sont plus proches des canaux. La loi de l'économie de marché. Ceux qui ont payé cher vivront. Pour les autres, ce sera bientôt la fin. À bâbord, le canot numéro 14, comme tous les autres, n'est pas chargé à pleine capacité. L'officier, à son bord, tire 3 coups de feu en l'air pour dissuader ceux qui voudraient y monter de force. C'est la cohue et l'orchestre joue toujours. Les canots de tribord sont tous plus chargés, avec un seul qui atteindra 70 personnes, soit sa pleine capacité. Alors qu'à bâbord, on ne compte qu'une trentaine de passagers à chaque fois, c'est une cinquantaine de l'autre côté. D'un côté, les hommes peuvent monter, de l'autre pas. 2h05. La situation est désespérée pour ceux qui sont restés à bord. L'orchestre joue toujours. Les opérateurs radio sont relevés de leurs fonctions par le capitaine. On aperçoit à 2h17, dans le fumoir de la première classe, l'architecte du paquebot. Le capitaine, lui, prend la barre. Des passagers restés à bord sautent à l'eau et rejoignent parfois avec succès les canots à la nage. Un homme y retrouve sa femme. 2h18. Les lumières du navire brillent une dernière fois et s'éteignent pour toujours. Dans la foulée, le Titanic se brise en deux dans d'atroces cris de souffrance entre la troisième et la quatrième cheminée. La partie avant coule instantanément, la partie arrière flotte, se remplit d'eau et finit par sombrer, elle aussi. Il est 2h20. Le Titanic est mort. L'orchestre ne joue plus. Frédéric, lui, a pu miraculeusement monter à bord du canot numéro 6. Il est sauvé.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H qui nous occupe est consacrée à l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire maritime, celle du Titanic, le géant des mers qui rencontra, au détour d'un soir sans lune, un iceberg qui fissura sa coque. 2h40 plus tard, le paquebot coule, ses 6 compartiments ayant pris l'eau. C'est la cohue, la catastrophe, un cataclysme. Les équipes gèrent mal le sauvetage, ne remplissent des canaux qu'à moitié, mais fort heureusement, notre héros, Frédéric, a pu accéder au canot numéro 6. C'est pour lui le temps de réaliser ce qu'il se passe une fois le calme revenu. Le temps de chercher les responsabilités aussi. Nous sommes le 15 avril 1912. Il est 2h25 du matin. Les passagers du canot dans lequel se trouve Frédéric, dont 3 seulement, lui y compris, sont des marins de métier, regardent, stupéfaits à l'horizon. Les derniers mètres de la coque du Titanic viennent de basculer dans les profondeurs de l'océan. Ça y est, c'est la fin. Pour tous, c'est le choc, la consternation. Et le canot numéro 6, comme les autres, va devoir maintenant s'en sortir, livré à lui-même au milieu des flots. Les 3 marins, une fois le choc un peu dissipé, remarquent sur le côté une lumière chancelante, lointaine, à l'horizon. Un navire. Très certainement un navire. La suite de leur nuit d'horreur va donc être employée à tenter de rejoindre cette petite luciole qui brille au loin. La lueur d'un espoir. Frédéric, comme pour attester de l'ampleur de la catastrophe pour ceux qui n'ont pas eu de place dans les canaux, met sa main dans l'eau. Moins 2 degrés, il la ressort gelée. Les malheureux tombés à l'eau n'auront eu aucune chance. Une personne sur 5 mourra en moins de 2 minutes. Tous les autres vont périr en moins de 15 minutes. Une hécatombe. Une seule exception étonnante éclaircira ce triste bilan. Un boulanger qui a ingurgité durant la soirée une quantité folle de whisky va réussir à tenir, tenez-vous bien, près de 2 heures. 2 heures dans une eau glacée. Il avouera de lui-même que s'il s'en est sorti, c'est grâce à sa consommation excessive d'alcool. Dans le canot numéro 6, les rapports sont tendus. Un quartier maître du Titanic tient la barre. Il houspille Frédéric et l'autre marin qui, eux, manient les avirons. Il n'hésite pas non plus à recadrer fermement les passagers. Alors que certains l'enjoignent d'opérer un demi-tour pour aller chercher les survivants, car il reste près de 10 places disponibles, il refuse et poursuit sa route. Jamais, bien entendu, les marins, aussi forts soient-ils, ne réussiront à rattraper la lueur aperçue après le naufrage. C'est finalement un autre navire, venu au contact de la zone, qui récupérera les passagers du canot numéro 6, tous sains et saufs. Mais les épreuves ne sont pas terminées, non. Une commission d'enquête va maintenant mettre les survivants à rude épreuve. Frédéric n'est pas un homme à l'aise dans ce genre de situation, pas du tout même. Il déteste les prises de parole en général, à vrai dire. Et cette commission d'enquête, censée faire la lumière sur l'affaire du Titanic, ne le met pas du tout en confiance. Oh, il n'est pas dupe. Les autres non plus. Tout est cousu de fil blanc. Personne ne sera inculpé. À ceux qui lui demandent si, selon lui, quelque chose aurait pu éviter la collision, il répond que l'absence de jumelles dans le nid de pie était suicidaire. Et alors que les mêmes questions reviennent plusieurs fois, il cesse de répondre. Le président de la commission, réalisant que le jeune homme ne sera plus loquace, finit par lui dire « Je suis votre obligé. Je pense que vous avez très bien énoncé votre témoignage, bien que vous sembliez vous méfier de nous tous. » En guise de réponse, un simple « merci » sur un ton aussi ironique qu'insatisfait sort de la bouche du jeune homme. En effet, il avait raison de ne rien attendre de l'enquête qui conclura à un stupide et malheureux accident portant au nu ceux qui auraient dû être questionnés s'ils avaient eu la vie sauve. En premier lieu, le capitaine Smith. Il est vrai que le barbu au poil aussi blanc que la glace a suivi la règle maritime qui stipule qu'un capitaine coule avec son navire. Mais tout de même, il a refusé d'écouter les avertissements répétés émanant des autres bateaux alentour et surtout, sa gestion du remplissage des canots est critiquable. On estime aujourd'hui que 500 vies de plus auraient pu être sauvées, soit un tiers des 1500 victimes. C'était pas rien, loin de là. Les pertes en vie humaine sont terribles. Aucun des 13 ingénieurs présents à bord, par exemple, ne s'en sont sortis, se sacrifiant au profit d'autres passagers. Beaucoup d'autres, voyageurs, lambda, musiciens, machinistes ou cuisiniers, sont morts en héros, permettant la survie de femmes ou d'enfants. La population a souvent critiqué l'attitude du patron de la compagnie qui a construit le navire, Ismay. Sa seule erreur n'a pourtant été que de s'en sortir. Et tout ce qu'on raconte autour de sa survie n'est qu'un tissu de mensonges. Il a bien participé au sauvetage et à la descente de nombreuses embarcations avant de monter dans l'une d'elles au tout dernier moment. La légende, dès le naufrage, va prendre le pas sur la réalité dans bien des cas. L'épave du Titanic, elle, a rejoint le fond des océans. Il faudra 73 ans pour la retrouver, enfin, et que des sous-marins équipés de caméras puissent l'explorer et permettre de mieux comprendre la tragédie, parfois même de retrouver des traces du passage de l'un ou de l'autre. Les objets remontés des abysses seront présentés dans des expositions dès la fin des années 80. L'épave, encore aujourd'hui, doit cacher bien des trésors. Elle trône toujours à 3821 mètres de profondeur au cœur de l'Atlantique Nord. La tragédie du Titanic nous rappelle qu'un excès de confiance, bien humain grâce au progrès de la technologie, est illusoire face aux forces déployées par Mère Nature. Elle nous rappelle également cette époque durant laquelle des millions d'Européens sont arrivés en masse aux États-Unis dans le but de construire une vie meilleure, remplie d'espoir et de nouveaux départs. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation du journaliste Philippe Meyer qui, en 1998, sur les ondes de France Inter, évoque avec humour cet excès de confiance des ingénieurs ayant fabriqué ce titan des mers. Le Titanic a été construit par des professionnels, l'Arche de Noé par des amateurs. L'art de la synthèse et de l'ouverture à la réflexion. N'hésitez pas à nous donner votre avis. D'après vous, qui sont les véritables responsables du naufrage? Était-il réellement évitable? Je vous laisse vous faire votre propre opinion à ce sujet. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.